Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. De nos jours, les femmes ont plus d'opportunités de formation et de travail, et certaines parviennent même à occuper des métiers à prévalence masculine. Toutefois, la persistance des pesanteurs socioculturelles est un frein à leur épanouissement professionnel, soulignent les experts, comme la psychologue camerounaise Julienne Tsang-Sepou, spécialiste en genre et développement à Yaoundé.
Aujourd'hui, toutes les sociétés doivent évoluer et surtout les familles. Les familles doivent accepter que les filles fassent les études qu'elles veulent. Et au-delà de ça, il faut que cette société, avec les programmes gouvernementaux ou des autres intervenants, mette en place un système de recrutement qui fasse que, à l'embauche, la fille voit quand même qu'elle n'a pas perdu son temps en étudiant un métier. Et ce problème à l'embauche est très important parce que beaucoup de filles ont fait la mécanique, l'électricité, le bâtiment, mais ne trouvent pas souvent des employeurs qui les laissent s'épanouir dans leur métier. Donc, elles ne pourront pas à la longue avoir suffisamment d'expérience pour ouvrir leur propre entreprise, alors que les entrepreneurs, tout le monde sait, doivent avoir une certaine expérience avant de se jeter dans l'entrepreneuriat.
Il y a le problème des crèches qui se posent, des garderies d'enfants, de l'accompagnement familial et toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'il faut un accompagnement particulier pour les femmes, justement, pour leur permettre d'accéder à ces métiers-là?
En 1975, quand on a commencé les conférences sur la femme, un slogan disait « J'ai voulu changer le monde, mais je n'ai pas trouvé de baby-sitter ». C'est ça le problème. C'est que d'office, nous pensons qu'elles ne peuvent pas. On ne pose pas la question en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent. Elles ont déjà prouvé leur capacité à acquérir les outils. Il faut maintenant leur donner l'accès réel. Justement, ces crèches-là, les stages, justement, favoriser le fait qu'on ne les discrimine pas à l'entrée des stages ou à l'entrée des entreprises. Elles ont besoin d'un accompagnement spécial qui est lié sûrement soit à leur nature, soit au regard que la société a, dont la société doit évoluer. Notre préoccupation ici, c'est de savoir, est-ce que les femmes peuvent aller aussi loin? Au Cameroun, il y a plein de filles qui sont dans les lycées techniques et qui font mécanique, bâtiment et tout. Mais il y a très peu de femmes qui gèrent des entreprises qui sont liées au BIT et tout ça. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Quand on dit entreprise, on les voit toujours au bas de l'échelle. Tout ne se joue pas seulement sur le plan du travail qu'on exécute. Beaucoup de choses se jouent sur le plan des personnes qu'on rencontre. Je prends le cas de l'Angleterre. En Grande-Bretagne, les grands patrons se rencontrent sur le green, donc au golf, se rencontrent dans les pubs, dans des endroits où on se fréquente après 21h, 20h, où on boit du whisky. Est-ce que vous voyez la jeune femme allant dans le pub ou bien sur le green à 21h parler à tous les pétroliers qui ont un besoin d'un employé ou d'un jeune ingénieur? Donc les messieurs qui sont à la tête de ces sociétés vont parler entre eux et vont se dire « T'as pas un jeune homme là qui a telle qualité? Moi j'en ai besoin. » Et c'est les hommes qui vont passer.
Comme l'experte en genre et développement camerounaise Julienne Tsang-Sepou, la présidente de l'Association des femmes architectes du Congo, Caroline Pindinora, souligne que la pression socioculturelle et les stéréotypes liés au genre sont les principaux obstacles au développement professionnel féminin. L'architecte congolaise forme et soutient des étudiantes à Kinshasa pour les aider à surmonter ces préjugés encore fortement ancrés dans les sociétés traditionnelles au sein même de la famille.
Déjà toute petite, on ne nous apprend pas à prendre des risques. Et à chaque fois qu'on est devant une profession ou un métier à prédominance masculine, on a l'impression que, bon voilà, c'est pas fait pour les femmes. À part ça, il y a plusieurs freins. Lorsqu'on finit ses études, alors les femmes, généralement, je parle de l'Afrique et surtout de la RDC, elles se marient. Et si tu te maries à un homme qui ne comprend pas que tu veux exercer ta profession, ben c'est fini pour toi. C'est vrai qu'on a aboli l'autorisation maritale, mais c'est encore ancré dans les esprits, dans la tête des femmes, qu'il faut avoir l'aval de ton mari pour que tu puisses te lancer, justement, ouvrir ton bureau d'études et tout ça. Et il y a aussi les finances, parce que si tu dois ouvrir un bureau d'études, tu dois avoir assez de moyens. Généralement, c'est compliqué. C'est là maintenant qu'on a besoin que le gouvernement ou que certaines structures accompagnent justement ces femmes-là qui éprouvent le besoin d'exercer en tant qu'architecte, qu'on les accompagne jusqu'au bout de manière à ce qu'on ait un peu plus de femmes justement dans la profession.
Que faut-il faire pour renforcer la confiance de la fille, de la jeune fille au niveau culturel? Autrement dit, comment on est passé du « tu ne peux pas » à « tu peux » dans les familles contemporaines égalitaires? Et pourquoi c'est essentiel de les rassurer sur ce plan-là?
Par exemple, nous, dans AFARC, donc l'Association des femmes architectes du Congo, ce qu'on fait, c'est de la sensibilisation dans les écoles, dans les lycées. On sensibilise les jeunes filles, on leur explique l'architecture, on les pousse un peu à sortir des conventions. C'est pas facile parce que, par exemple, j'ai une jeune fille que je suis, que je coach aussi. C'est sa mère qui bloque, qui lui dit « Non, mais écoute, faut pas faire ça, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. » Alors qu'elle, elle veut vraiment faire l'architecture. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai su entrer en contact avec la maman, mais c'était très difficile pour que la maman lâche prise, pour qu'elle accepte que sa fille choisisse l'architecture. Donc il y a aussi un problème de mentalité. Il faudrait vraiment qu'on sensibilise dès le bas âge. Moi, j'ai donné déjà cette piste de solution-là. On commence déjà à l'école à insérer le cours d'égalité des sexes. C'est très important que ça commence déjà à l'école. C'est là qu'on va apprendre justement aux jeunes filles le leadership féminin, le fait que tu n'as pas à te sentir diminué quand tu es à côté d'un garçon, tu peux faire exactement la même chose que lui. Donc il y a tout ça, qu'on commence vraiment à la base.
Voilà l'égalité des genres à la base de l'éducation, selon Caroline Pindi-Nora, présidente de l'Association des femmes architectes du Congo. La Sierra Leone a fait quelques progrès au sein de son parlement, qui a doublé le nombre de femmes législateurs, en restant toutefois bien au-dessous de la parité homme-femme. Pour connaître cette évolution et ce qu'en pensent les femmes, suivons ce reportage de Sena Noutor, relaté par John Lyndon.
Rikiatou Néné Touré est entré en politique en 2007, principalement pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Après un mandat au sein d'un conseil local, dit-elle, son parti politique a refusé de lui accorder un autre siège à trois reprises. Lors d'une élection pour deux sièges au conseil municipal, elle a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix, mais son parti a mis un homme à sa place après l'élection.
J'ai toujours voté. Mais les dirigeants ne pensent pas que je correspond aux critères qu'ils veulent. Je suis considérée comme quelqu'un d'inflexible, quelqu'un dont ils pensent qu'elle ne va pas se contenter d'accepter les choses, vous savez.
Les militantes sierra-lyonnaises affirment que ce type de manipulation maintient le nombre de femmes au pouvoir à un bas niveau, même après que le président Julius Mada Bio a signé en janvier la loi sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, ou Djewi, qui exige que les femmes occupent 30% de tous les sièges électifs publics et des postes de direction au sein du gouvernement. Avant les dernières élections, le Parlement de la Sierra Leone ne comptait que 12% de femmes, ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale de 26,4% selon l'indice des femmes au Parlement de l'Union interparlementaire. Au sein du gouvernement, seuls 4 des 32 postes ministériels étaient occupés par des femmes, ce qui est également très inférieur à la moyenne mondiale.
Cela est né du fait que le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation après la guerre a noté que des groupes entiers étaient exclus de la politique générale et ne savaient pas comment les décisions étaient prises. Et une partie de ces groupes étaient des entités marginalisées telles que les femmes et les jeunes.
Depuis la mise en œuvre de la loi Guéoui, cette année, des femmes ont été élues à 41 des 135 sièges parlementaires, soit plus du double du nombre de femmes élues lors de la dernière législative.
Le futur plaidoyer devrait impliquer un travail plus direct avec les partis politiques pour s'assurer qu'ils placent les femmes plus haut sur ces listes et qu'ils les placent également dans des sièges sûrs, pas des sièges qu'elles vont peut-être finir par perdre.
Le ministère sierra-léonais de l'égalité des genres a déclaré lors d'une interview à la VOA qu'il s'efforcerait de corriger tous les manquements à la loi et qu'il ferait pression avec les nouvelles femmes parlementaires pour que les femmes politiques bénéficient d'une plus grande protection.
Burkina Faso, le projet Femmes en création vise à renforcer les capacités artistiques des femmes, notamment dans le domaine des arts de la scène. Cette initiative les forme à la mise en scène, régie lumière, son et scénographie. Lamine Traoré a rencontré des bénéficiaires de ce projet à Ouagadougou.
Vous suivez une pièce intitulée Ingérence. La pièce de théâtre parle de l'incivisme dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso.
Ils ont doté des armes et enrôlé les jeunes de la zone pour attaquer les régions environnantes.
Elle a été mise en scène par une femme. De l'autre côté, aussi des femmes à la manœuvre. À la fin de la représentation, une des comédiennes pense que le message véhiculé, l'incivisme est passé.
Si le message est lancé, ça peut beaucoup changer. Ça peut changer beaucoup dans notre société. De toute façon, le théâtre, c'est le reflet de tout ce que nous faisons en dehors de la scène.
Femmes en création est un projet de l'association Wilini qui, depuis 2019, forme des femmes dans les métiers du théâtre. La metteuse en scène du jour pense que les femmes ont leur place dans ce domaine.
La plupart du temps, ce sont les hommes qu'on voit sur la scène, ce sont les hommes qu'on voit dans la mise en scène. Et je pense que c'est important aussi que les femmes s'y mettent. Et il faut les encourager. Et nous sommes des porteurs de vie et donc il y a une certaine sensibilité qui ne dit pas son nom. Et donc pour moi, qui permet à la femme vraiment d'être, d'être juste, d'être vraie dans une mise en scène, tout comme dans son rôle de comédienne.
Bonjour patron. Bonjour.
Cette initiative est partie d'un constat selon les porteurs du projet Femmes en création.
En 2011, moi, je suis rentrée de mes études théâtrales du Bénin. J'étais au Bénin, j'ai fait une étude théâtrale. Quand je suis revenue, j'ai voulu faire un spectacle où je serai mise en scène par une femme. Et j'ai cherché une metteuse en scène, en vain, je n'ai pas trouvé. Et Odile Sankara n'était pas disponible, il y a Yambilé. J'ai vraiment tourné jusqu'à aller au Bénin, retourner au Bénin, en Algérie. Je n'ai pas eu une femme pour faire la mise en scène. Et là, ça m'a fait un petit truc. Effectivement, je regarde, je me dis, bon, à part celle que j'ai contactée, il n'y en a plus. Donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
Le projet Femmes en création est à sa troisième phase. Il a eu l'accompagnement du Fonds de développement culturel et touristique, du Bureau de la coopération suisse et de l'Union européenne au Burkina Faso. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Femmes et les filles continuent de subir des violences sexuelles au Darfour dans l'ouest du Soudan, où le conflit armé et les troubles à caractère ethnique poussent des milliers de familles sur les routes de l'exil. Les personnes qui se sont réfugiées au Tchad, principalement des femmes avec des enfants, affirment que l'ordre public s'est complètement effondré. Un reportage d'Henry Wilkins, relaté par Yacouba Ouedraogo.
Cette femme, dont la VOA ne divulgue pas le nom pour la protéger, a fui le Darfour lorsque les combats ont éclaté dans sa ville natale de Tindelti. Elle raconte que des hommes, des Janjaweed, un groupe armé d'origine essentiellement arabe qui s'en prend aux Soudanais noirs, sont entrées dans la maison où elle et sa sœur s'abritaient des combats. Elle affirme que les hommes les ont toutes les deux violées. Mouna Malek est une militante pour l'égalité des sexes au Darfour. Elle recense les cas de viol dans cette région du Soudan depuis le début de la guerre civile qui a déclenché des violences intercommunautaires généralisées. Cette guerre oppose des généraux rivaux engagés dans la lutte pour le pouvoir.
De nombreux civils ont été tués, hommes, femmes et enfants. Des vols ont été commis dans les propriétés privées et publiques. Ils ont même brûlé des bâtiments. Par-dessus tout, des femmes et des jeunes filles ont été violées.
Madame Malek affirme avoir recensé elle-même 11 cas de viol. Les Nations Unies se sont déclarées gravement préoccupées par les informations faisant état de violences sexuelles, y compris de viols à l'encontre de femmes pendant le conflit au Soudan. La plupart des enquêteurs et des journalistes n'ont pas pu se rendre au Soudan depuis le début du conflit. Il est donc difficile de connaître l'ampleur des crimes. Les Nations Unies font une distinction entre les cas isolés de viol en temps de guerre, qui sont punis par la loi pénale nationale, et les viols systémiques généralisés, qui sont considérés comme des crimes de guerre en vertu du droit international. Lorsqu'on lui a demandé s'il existe des preuves de viols systémiques au Soudan, une fonctionnaire de l'ONU a déclaré à la VOA:
la vérification de ces cas par les Nations Unies est en cours et cela aidera à établir les schémas existants. Il y a certainement une tendance à la généralisation des cas dans les différentes zones de conflit, que ce soit à Khartoum ou au Darfour.
Des agents de santé ont déjà signalé des cas de viol et des femmes prises dans les combats ont exprimé leur peur sur les réseaux sociaux. La représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, pour le Tchad, Élise Kakam, a déclaré avoir récemment rencontré une dizaine de jeunes filles dans un site de réfugiés à la frontière tchadienne.
Dans ce groupe de personnes nouvellement arrivées, il y avait des adolescentes enceintes. Elles ont toutes entre 15 et 17 ans, c'est la moyenne d'âge. J'ai voulu savoir si elles étaient avec leur mari, mais aucune d'entre elles n'a pu me montrer un mari. Ce qui signifie que ces filles ont été victimes de quelque chose que nous ne pouvons pas identifier pour l'instant. La plupart des gens ici n'osent pas avouer qu'elles ont été violées.
La survivante, interrogée par la VOA, affirme que suite à un viol, sa sœur est présentement enceinte.
Si je ne pouvais.
La quatrième édition de l'initiative sénégalaise Oscar des talents a été lancée au Cameroun. Ce projet entend primer les meilleurs projets des jeunes et femmes du continent ou de la diaspora dans les domaines de l'élevage et l'agriculture. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Jean-David Topoliken, jeune Camerounais, ingénieur en génie agroalimentaire, élève des escargots et postule cette année à l'initiative Oscar des talents à Yaoundé.
À base de ce projet que j'ai lancé il y a de cela 5 ans, je me suis battu de moi-même pour atteindre mes objectifs. Je n'ai pas obtenu ce que j'attendais de la part du Cameroun. Actuellement, je produis entre 20 000 et 25 000 escargots chaque 3 mois. Et ma production est en train d'être améliorée dans le long terme pour que j'atteigne les 100 000 escargots d'ici 2025. J'ai besoin d'environ entre 2 millions 500 3 millions.
Besoin d'argent et les lauréats peuvent bénéficier de financement. Car maman est président du projet Oscar des talents.
Les jeunes qui ont à postuler vont faire un concours. On va sélectionner les meilleurs projets. Nous allons déjà les attribuer des formations. Maintenant, le projet, c'est entre 5 et 10 millions en franc CFA.
Cette année, la quatrième édition se focalise sur certaines thématiques. Marietou Diop, chargée des relations extérieures du projet Oscar des talents, explique.
Oscar des talents, c'est une grande organisation qu'a mis en place de jeunes sénégalais pour vraiment participer à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le manque d'emploi, mais surtout à la lutte contre l'immigration illégale.
Le Cameroun va sélectionner son meilleur candidat le 2 décembre à l'issue d'un concours à projet. Joseph Tchana, secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat.
Parce que quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi pour soi-même, mais on en offre pour d'autres. Et on contribue à payer ses impôts, on contribue à développer notre pays. Pour cette édition qui concerne l'agriculture et l'élevage, c'est ce que nous appelons des secteurs prioritaires de développement. Parce que en matière d'agriculture et d'élevage, c'est des secteurs à fort potentiel de croissance. Ça veut dire que c'est des secteurs où on doit pouvoir investir parce que tout ce qu'on investit dans ces secteurs-là rapporte de l'argent.
La concurrence sera rude, mais bénéfique, entre 9 candidats du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal, du Togo et des résidents en France, en Italie ou aux États-Unis qui participent à l'initiative Oscar des talents. Les lauréats seront connus à Dakar lors d'un grand festival le 3 avril 2024 et que le meilleur gagne. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Comme le Togo, le Gabon ou le Rwanda, la Côte d'Ivoire interdit la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques, et ce depuis 2013. Mais ici comme ailleurs, la réalité sur le terrain a démontré que les lois à elles seules ne suffisent pas. Lors de la Journée mondiale de l'environnement à Abidjan, le gouvernement est revenu sur les actions de recyclage, soulignant qu'elles sont susceptibles de générer une économie circulaire, donc de créer des emplois et des opportunités pour les jeunes. On revient sur l'événement avec Delphine Boyce.
Vu la gravité de la situation, la Côte d'Ivoire veut mettre fin à l'usage des sachets plastiques et prend en 2013 un décret pour faire face à la question des déchets plastiques. Mais il faut aller au-delà avec des actions de sensibilisation. Jean-Luc Assi, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable.
La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques. Au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, de changements profonds dans le comportement du citoyen et de mise en place d'un cadre juridique renforcé et incitatif.
D'autres solutions au plan mondial et beaucoup plus globales sont proposées par la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Inger Anderson estime que la pollution plastique constitue une menace pour les populations.
Le monde produit plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Il faut redéfinir la conception de l'emballage pour réduire les quantités de plastique. Il faut redéfinir la conception du système et des produits pour faciliter la réutilisation et le recyclage.
Une lutte à laquelle s'associent les ONG à travers le recyclage des déchets plastiques et dite Kouassi de l'unité de transformation plastique.
On a les revues et les bidons plastiques d'eau qui sont broyés, ensuite bien traités, qui donnent des différentes formes. Et ces différentes formes-là, on les recycle en plaques écologiques et des pavés. On fait le maximum pour réduire le CO2, le taux de carbone éjecté dans l'environnement.
Mouna Lekale de Green Community.
Nous avons des objets d'art, ces objets qui ont été faits avec du capsule. On a aussi des tableaux, on a aussi des vêtements qui sont faits avec du capsule et du recyclage, avec des sacs, avec des messages écologiques. Notre objectif, c'est de faire d'Abidjan une ville de zéro déchet plastique.
Choisi par les Nations Unies comme pays hôte pour porter le flambeau de la lutte contre la pollution plastique pour ce cinquantenaire, la Côte d'Ivoire se dit prête pour les actions de sensibilisation. Delphine Bowise, Abidjan, VOA, Afrique.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.